C'est au chapitre 4, si vous vous rappelez bien, je vais aller très rapidement sur le chapitre 4 et le chapitre 5, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais c'est parce que le chapitre 6 est beaucoup plus important, le chapitre 8 également. Alors je crois qu'il faut quand même aller assez vite sur ce chapitre 4. C'est toujours donc dans cette recherche de ce que représente la dynamique, hein, c'est-à-dire la puissance. Et il faut bien voir le but et l'intention d'Aristote en regardant ces diverses modalités de la puissance pour comprendre que la puissance se donne à nous selon ces diverses modalités. Alors, il avait déjà touché le dunaton, le possible, qui le possible est en tant qu'il résulte. Il est évident qu'on ne peut pas affirmer avec vérité que telle chose est possible mais ne sera pas. C'est ce que j'avais souligné la dernière fois, et je crois que c'est très important. Nous allons revoir, parce que c'est un des aspects sur lesquels Aristote insiste beaucoup. C'est que le possible, donc si le possible est en tant qu'il résulte, c'est que le possible ne peut être saisi que par là. Vous ne pouvez pas saisir un possible avant là, au plan métaphysique. Je parle du possible au plan métaphysique, pas le possible logique. Le possible logique a sa propre intelligibilité en lui-même. Je prends le possible donc métaphysique qui peut saisir qu'à partir de là. Donc, si le possible est en tant qu'il résulte, peut-être que de cette manière-là, il est évident qu'on ne peut pas affirmer avec vérité que telle chose est possible mais ne sera pas. De sorte qu'il y ait des choses impossibles qui nous échappent. Alors la conséquence immédiate, la conséquence nécessaire, si nous supposons l'existence actuelle ou passée d'un être qui n'existe pas, mais est possible, rien ne sera impossible. Donc cette petite considération sur le possible, sur laquelle encore une fois il reviendra, lui permet de dire qu'il ne faut pas identifier l'erreur et l'impossibilité. Et je crois que c'est important à noter, c'est sur un débat. Car tu sais, car que tu sois actuellement debout, ceci est faux, mais ce n'est pas un possible. Si Socrate est assis, n'est-ce pas? Et quand nous sommes tous assis, nous sommes tous Socrate, n'est-ce pas? Par le fait même, si tu es debout, si je dis que tu es debout, c'est une erreur, mais ce n'est pas un possible. Donc il faut bien distinguer l'erreur et l'impossible. Et par le fait même, ceci montre bien le fondement de ce que représente le point du même. Et alors à partir d'ici, je vous lis le texte, je ne veux pas le commenter beaucoup, mais c'est simplement parce que c'est important de l'avoir au moins lu et entendu une fois. Et nous essaierons de voir ce que ça signifie dans la perspective d'un peuple. C'est intéressant à étudier, parce que c'est un point de vue précis des rapports entre le point de vue du possible et de l'impossible. Aristote va essayer de saisir les liens entre les deux. En même temps, il est manifeste que si l'existence de A entraîne nécessairement l'existence de B, A étant possible, nécessairement B est possible. Car s'il n'est pas nécessaire que B soit possible, rien n'empêche qu'il ne soit pas possible. Supposons précisément A possible, donc quand A peut exister, et si A est posé, aucune impossibilité n'en résulte. Alors, B nécessairement existe. Pourtant, c'était impossible. Donc, j'espère que vous suivez. Comme ça, vous êtes en marche. Supposons donc B impossible. S'il est nécessaire que B soit impossible, il est nécessaire que A le soit aussi. Étant donné les liens qu'on a mis entre A et B au point de départ. Donc, il y a une dépendance entre les deux. Un est impossible, l'autre nécessairement est impossible. Il y a une conséquence aussi. Mais si A était supposé possible, donc les B l'est aussi. Par conséquent, si A est possible, B sera aussi possible. Du moins, s'ils sont de telle sorte que A existant nécessairement, B existe. C'est-à-dire qu'il y a une connexion nécessaire entre les deux. S'il y a une connexion nécessaire entre les deux au niveau existant, nous retrouvons la même connexion au niveau du possible qu'au niveau de l'impossible. C'est ça que je vous montrerai. Si précisément A et B sont de manière telle que B ne soit pas possible, A et B ne seront pas entre eux comme il fut établi. Et si de la possibilité pour A d'exister suit nécessairement la possibilité pour B d'exister quand A existe, il est nécessaire que B existe aussi. Car le fait que B soit nécessairement possible si A est possible, signifie que si A existe et selon le temps et comme il était possible d'être, B existe nécessairement à ce moment et de cette manière. Donc vous voyez, là, ce serait intéressant de voir ça, l'analyser de près. Encore une fois, je ne peux pas le faire. Il suffit de relire le texte très attentivement et voir les liens qui montrent les deux. Pas. On parle de la point de départ, de cette hypothèse. En même temps, il est manifeste que si l'existence de A entraîne nécessairement l'existence de B, donc si vous mettez votre hypothèse, il y a une connexion de nécessité entre les deux. Donc il est manifeste que si l'existence de A entraîne nécessairement l'existence de B, A étant possible, nécessairement B est possible. Vous voyez, vous passez du lien existentiel au lien de possibilité. Puis après, vous voyez le point de vue de l'impossibilité et vous revenez au point existentiel. Et vous voyez toutes les connexions qui existent entre eux. Alors, nous posons la question, il faut se poser la question, pourquoi Aristote dit-il ça ici? Il y a cette chose très simple. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer par là? Donc, il veut nous faire comprendre certains liens qui existent au niveau du possible et au niveau de l'impossible par rapport à l'art. N'oublions pas ce qu'il a dit précédemment au début de ce chapitre. Si le possible est, en tant qu'il avait lieu, il est évident qu'on ne peut pas affirmer vérité que telle chose est possible, mais ne sera pas. Donc c'est essayer de comprendre que le possible, de fait, dépend de l'acte. Et qu'un lien nécessité que vous établissez entre deux réalités possibles dépend du fait de l'acte. Et les liens d'impossibilité par le fait même, puisque l'impossible et le possible, ce sont deux contraires. Donc tout ce qui est du côté du possible se retrouvera du côté possible et en dépendant de l'acte. Donc je crois que c'est ça qu'Aristote veut lui montrer. Le possible. Autrement dit, le possible est toujours conditionné. Le possible n'est pas un principe. Ça, nous le reverrons, et c'est très très net. Et je crois que ça, c'est important à saisir. Le possible n'est pas un principe, au plan métaphysique. Je ne peux pas baser ma métaphysique sur le point de vue du possible. Parce que le possible est essentiellement relatif. Il est relatif à l'acte. Je ne peux connaître parfaitement le possible que par là. Au plan métaphysique, hein, pas au plan logique, parce que au plan logique, c'est très très différent. Mais au plan métaphysique, nous passons au plan métaphysique. Donc ce raisonnement qui serait pris en dehors du plan métaphysique, ce serait très curieux. Parce qu'au plan logique, ça ne va plus. Ça n'a une signification qu'au niveau proprement métaphysique de la dépendance du possible à l'égard de l'art. Donc je crois que c'est ça qu'Aristote nous fait comprendre, que le possible est toujours conditionné. Il n'est pas un principe. Il est essentiellement relatif parce qu'il dépend d'un autre. Il est le fondement de toute dépendance, alors que nous regardons le possible ou l'impossible, c'est la même chose. On ne peut jamais raisonner directement sur le possible ou sur l'impossible sans voir la dépendance à l'égard de l'art. Et il est le fondement de tous les conditionnements. Tous les conditionnements relèvent sur le possible. Alors ça va nous éclairer après si possible. Alors il donne tout simplement cette constatation. Le chapitre 4 est une petite considération sur le possible. Nous avons quitté la puissance pour entrer dans le possible. Vous voyez bien l'échelle ascendante. Ça, c'est ça l'hypothétique désir. Ce chapitre est construit sur une grande montée vers l'art. Alors, c'est intéressant de voir cette montée. Nous sommes partis de la puissance au sens tout à fait premier, c'est-à-dire la puissance qui regarde le monde. Et nous avons vu que cette puissance n'était pas la nature. Et que cette puissance, par le fait même d'être dunami, c'était une qualité. C'était la capacité qu'on a d'agir sur quelqu'un, sur un autre. Je suis puissant dans la mesure où je peux agir sur quelqu'un. Et j'ai aussi la capacité de puissance de passer. Donc il a essayé d'étudier les diverses modalités de la puissance, puis nous entrons dans le point de vue du possible. Pour Aristote, la différence entre la dynamis et une atome, ici c'est une atome, ici c'est une atome, c'est que le possible est au niveau de l'être. Et c'est au niveau de l'être. Nous dépassons le point de vue du mouvement pour entrer dans le point de vue de l'être. Le possible se situe au niveau de l'être. Une réalité est possible. Ça peut y avoir aussi une possibilité de marcher, qui est une possibilité à l'égard des mouvements. Mais au fond, le possible peut regarder le point de vue de l'être. Il n'est pas lié nécessairement au point de vue du mouvement. Donc nous avons déjà là, nous avançons vers quelque chose de particulier qui sera justement l'étude de l'être. Mais on aborde cette étude par le point de vue du possible. Il faudra se demander ensuite pourquoi il y a cette hiérarchie et cet ordre successif. Donc, je crois que ce qu'il veut montrer ici, c'est que le petit est toujours quelque chose de primaire, au plan du proprement philosophique. Nous ne pouvons pas saisir le principe comme un principe, le principe n'est pas simple, il implique toujours un certain conditionnement. Il est toujours lié à un certain conditionnement. Donc, si vous raisonnez sur le principe au plan philosophique, vous êtes obligé toujours d'avoir une référence à l'acte. On ne peut pas raisonner sur le principe comme ça. Et c'est pour ça qu'on prend le lien qui existe entre A et B au niveau existentiel, puis après on passe au niveau du possible, puis après on passe au niveau de l'impossible. Et on montre ces liens de base, en raison du premier qu'on a posé au point de vue de l'art. Le chapitre 5. On revient à la puissance. C'est pour ça que c'est très curieux, vous voyez, ce chapitre du possible, point de vue construction. Ce chapitre du possible est entre les deux. On revient avec le chapitre 5 à la puissance, à la dynamique. Et aux conditions de l'exercice de la puissance. Nous avons déjà habitué à décliner les modalités de puissance depuis le début du chapitre de ce livre. Nous retrouvons ici. Parmi les puissances, les unes sont innées, les sens, d'autres s'acquièrent par l'habitude et celles. L'habitude, par exemple, j'ai l'habitude de jouer, j'acquiers un habitus par là. D'autres par l'étude, m'affaire. Donc, de manière d'acquérir une puissance nouvelle, nous dirions un exis, nous dirions un habitus, c'est d'une part par l'habitude, d'autre part par l'étude. Aristote commence par rappeler quelque chose qui est présupposé connu, l'éthique nous a montré ça, c'est pas, il y a une allusion très nettement ici à l'éthique. Donc l'éthique nous a montré qu'il y a des puissances naturelles, et puis qu'il y a des puissances qu'on acquiert par l'éducation. C'est pas la païdéia. La païdéia me donne un pouvoir nouveau, me donne une puissance nouvelle, et qui n'est pas une puissance innée. L'éducation, l'enseignement, me donne une puissance nouvelle, une puissance particulière, donc des habitudes acquises. Un exercice. Donc, l'exercice est antérieur nécessairement pour ce genre de puissance. Avant d'acquérir ces puissances, il a fallu un exercice puisque j'ai acquis ces puissances par l'habitude ou par l'étude. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit des puissances innées, les puissances innées sont antérieures à l'exercice. Donc nous avons là une considération toute nouvelle. Nous n'avons pas vu du tout ces considérations-là avant. Grâce à ce nouveau type de puissance, Aristote fait intervenir ici la question de l'exercice. Et on s'approche de l'acte. Ça, c'est intéressant à voir. On s'approche de l'acte. On voit le point de vue de l'exercice. Il y a un lien entre puissance et exercice. Dans certains cas, l'exercice est antérieur à la puissance. Dans d'autres cas, la puissance est antérieure à l'exercice. Donc, il montre bien qu'il y a là un lien entre les deux. C'est tout simplement la considération qu'il fait. Il faut voir que dans les puissances, certaines puissances sont innées. Ces puissances sont antérieures à l'exercice, d'autres puissances ne sont pas innées, ce sont des puissances acquises, et alors à ce moment-là, nécessairement, l'habitude et le point de vue de l'étude sont antérieurs. Puisque le possible, alors nous voyons le point de vue du possible, c'est extrêmement complexe. Nous retrouvons le point de vue du possible, il fallait le traiter avant, pour pouvoir le situer ici. Donc nous avons ici un triangle de force, puissance, exercice, possible. S'approche de l'être, non? Progressivement, s'approche de l'être. Comparativement ici au point de départ, puissance, mouvement, ici nous sommes en face de quelque chose de particulier. Puisque le possible est quelque chose de possible à un moment donné et de telle manière, vous voyez bien, tout ce qu'on a dit précédemment, nous le retrouvons ici, de façon extrêmement dense. Au chapitre précédent, Aristote a montré qu'on ne peut pas regarder le possible en lui-même. Que le possible est effectivement conditionné. Je crois qu'Aristote ici le montre bien. Le possible est quelque chose de possible à un moment donné, posé, et de telle manière, pose. Donc, pour pouvoir penser le possible, il faut toujours le penser relativement au temps, posé, quand, à un moment donné. Et de telle manière, vous ne pouvez pas penser le possible en lui-même, au plan métaphysique. Parce qu'il est toujours conditionné. Il est toujours relatif à l'art. Si le relatif à l'acte, il implique donc toujours cette double dimension. Donc, puisque le possible est quelque chose de possible à un moment donné et de cette manière, donc vous voyez ce qui est dit ici, est directement la conséquence du chapitre 4, où Aristote nous a montré que le possible ne pouvait se comprendre que dans sa relation à l'égard de l'art. Sans oublier tous les autres éléments d'Aristote qui entrent dans sa définition. Dans la définition du possible métaphysique est impliqué le poté et le faux. Et c'est là quelque chose d'assez particulier. Vous ne pouvez pas penser le possible sans ses références au point de vue du temps et au point de vue du comment. Et même il ajoute, sans oublier tous les autres éléments qui entrent dans sa définition. Dans sa définition. Donc dans la définition du possible est impliqué cela. Très bien, la complexité du point de vue du possible. Et que certains êtres peuvent mouvoir selon la raison, leurs puissances sont alors rationnelles. D'autres êtres ne le peuvent pas. Ce sont les puissances qui sont alors irrationnelles. Donc nous retrouvons ici, après la première distinction des puissances acquises et des puissances innées, vous retrouvez de nouveau, au point de vue puissance, les puissances rationnelles et les puissances irrationnelles. Nous l'avions déjà dit, n'est-ce pas ? Dit que ce chapitre 5 est un chapitre qui fait une synthèse de toute une série de notions analysées de façon préalable. C'est l'importance. Et c'est ce chapitre qui est juste avant le moment de partir. Donc c'est ce chapitre 6 qui représente comme une synthèse de toute sa vision sur la puissance. Je crois que c'est ça qu'Aristote veut nous faire comprendre. Oui. Alors il part de la puissance innée, de la puissance acquise, par le point de vue d'exercice, il parle du point de vue possible, puisque le possible est de cette manière-là, et que certains êtres peuvent mouvoir selon la raison. Alors nous avons la puissance rationnelle, d'autres ne le peuvent pas, ce sont des puissances irrationnelles. Or, les puissances rationnelles sont nécessairement dans un être animé, et dans un être qui possède de logos, tandis qu'au contraire, les puissances irrationnelles sont dans les réalités qui peuvent très bien ne pas être animées. Pour ces dernières, lorsque l'agent et le patient se rapprochent de manière à exercer leur puissance, l'un agit, l'autre fait. Ceci n'est pas nécessaire pour les autres. Nous remarquons qu'il y a du côté de l'exercice quelque chose de tout à fait particulier pour les puissances irrationnelles que pour les puissances rationnelles. Je crois ceci aussi très important dans la considération philosophique que nous a dit Aristote. Les puissances irrationnelles, il suffit qu'elles soient en présence l'une par rapport à l'autre. La chaleur et le bois. Dès que la chaleur est présente au bois, la chaleur brûle le bois. Il ne demande pas de permission. Ça se fait tout de suite. Donc c'est ça qu'il veut montrer, c'est que les puissances irrationnelles, lorsqu'il s'agit des puissances irrationnelles, lorsque l'agent et le patient sont en contact, de manière à exercer leur puissance, donc la condition sine qua non pour qu'ils agissent, c'est d'être en présence. C'est la condition sine qua non. Il faut que le feu soit proche du bois. Dès que le feu est proche du bois, il agit tout de suite. L'un agit, l'autre pâtit. Ce n'est pas nécessaire pour les autres. Car les puissances irrationnelles sont productrices d'un seul effet. Elles sont déterminées à nous. Les puissances rationnelles le sont à l'égard des contraires. Les puissances rationnelles ne sont pas déterminées à nous, puisque nous avons vu que les puissances rationnelles impliquent le logos, et que le logos est au-delà des contraires. Nous avions dit ça précédemment, c'est ça que je dis, il récapitule tout dans ce chapitre. Il reprend tout. Nous avons vu précédemment, au chapitre 3, n'est-ce pas, que la différence entre les puissances rationnelles et les puissances irrationnelles. Et nous avions vu à ce moment-là que le caractère propre des puissances rationnelles, c'est de pouvoir dominer les contraires. Alors Aristote ici montre que du côté de l'exercice, il y a cette chose très très différente, puisque les puissances rationnelles dominent les contraires, ils ne font pas seulement la présence. Quand une puissance est parfaitement déterminée, quand elle est déterminée à nous, il suffit qu'il y ait la présence du patient et de l'actif pour que l'action se fasse. Pensez au feu, c'est très simple. Mais lorsqu'il s'agit des puissances rationnelles, il faut autre chose. Car les puissances irrationnelles sont productives d'un seul effet, les puissances rationnelles le sont des contraires. Donc, il doit dominer un autre élément, qui est l'appétit et le choix. Alors, vous voyez comment on arrive à dépasser le point de vue des puissances par le point de vue de l'appétit et du choix. C'est le premier dépassement qu'Aristote constate dans le point de vue des puissances. Les puissances ne peuvent pas être premières. Les puissances impliquent donc un acte. Alors nous ne sommes pas encore au niveau métaphysique, Nous sommes au niveau, si vous voulez, de ce que représente l'exercice des puissances rationnelles. Dans l'ordre des puissances, la puissance la plus noble, c'est la puissance rationnelle. Or, la puissance rationnelle implique l'ordre au contraire. Par le fait même, la puissance rationnelle, ça c'est déterminé. Alors, le point de vue des puissances, les puissances irrationnelles sont déterminées à l'unum, tandis que les puissances rationnelles, elles, impliquent et regardent les contraires. Donc, il faut nécessairement quelque chose qui soit au-delà de la puissance, qui va être l'appétit et le choix. Et l'appétit et le choix est donc antérieur à la puissance. Vous voyez la démonstration qu'il donne, hein? Le dépassement à l'égard des puissances. Nous avions déjà vu un premier dépassement, le point de vue d'exercice. Maintenant, nous en voyons un second, lorsqu'il s'agit des puissances rationnelles. On va voir qu'il sait tout cela, hein? Je suis le texte, j'essaie de comprendre, et j'essaie de voir progressivement comment dans cette attitude des puissances, il montre où il y a quelque chose d'antérieur. Il y a quelque chose d'antérieur au possible, nous l'avons dit, parce que le possible est conditionné, il est conditionné par là. Et je ne peux parler du possible que parce qu'il y en a. Donc là, il y a quelque chose d'antérieur. Mais ça, c'est possible. Après avoir étudié qu'il y a quelque chose d'antérieur au possible, je reviens à la puissance et je vois qu'à la puissance, il y a quelque chose d'antérieur aussi. Il y a l'exercice. Et non seulement il y a l'exercice pour l'acquisition des puissances acquises, mais il y a encore quelque chose d'antérieur aux puissances rationnelles, qui est le point de vue de l'appétit et du choix. Donc, tout agent rationnel doit réaliser ce dont il a la puissance comme il l'a lorsqu'il désire. Et ça, c'est très clair. Le feu agit sans le désir. N'est-ce pas? Tandis qu'au contraire, tout agent rationnel doit réaliser ce dont il a la puissance et comme il l'a. Alors, toujours le faux qui intervient. Parce qu'il s'agit de la puissance, on a vu que le possible était conditionné, donc la puissance est conditionnée, a fortiori. Et là, nous voyons ce double conditionnement de la puissance. Il faut avoir la puissance et comme il l'a lorsqu'il désire. Mais il faut que le patient soit présent. Ça, c'est évident, ça, c'est la condition sine qua non de toute action. Ça, ça existe même dans les puissances irrationnelles. La présence du patient est une condition sine qua non pour pouvoir agir. Il faut un contact, comme on dit aujourd'hui. Pour pouvoir avoir un contact, c'est la vieille condition des anciens, il faut la présence pour qu'il puisse avoir l'action. Et donc, il faut un contact pour qu'il puisse avoir l'action. Ça, c'est la chose élémentaire, c'est pas suffisant. Il faut avoir encore quelque chose à dire. Mais pas, autrement, le contact ne suffit pas. Le contact est la condition sine qua non pour toute puissance, rationnelle et irrationnelle. Et c'est pas la condition propre du rationnel. La condition propre du rationnel, c'est au-delà du contact, le désir, le choix. Vous voyez, c'est assez précis, encore une fois, c'est une analyse très simple de la puissance rationnelle et de la puissance irrationnelle pour essayer de comprendre comment se fait l'exercice de cette puissance rationnelle et de cette puissance irrationnelle. Puisque nous avons vu que l'exercice peut être antérieur à la puissance, il faut donc bien le préciser. Donc, je reprends. Tout agent rationnel doit réaliser ce dont il a la puissance, comme il l'a lorsqu'il désire. Mais il faut que le patient soit présent pour que la réalisation soit possible, pour que le poyen soit possible. Pour que le poyen soit possible, la réalisation soit possible, il faut que ça. De plus, aucun obstacle extérieur. Et ça, nous sommes dans les conditions. Car un être possède la puissance de la façon dont existe la puissance de produire, et celle-ci n'existe que selon certaines conditions. Voilà ce qu'il nous dit au chapitre 5. Chapitre 6. Après la dynamique selon le mouvement, il faut traiter les nerfs veillants. Oui, alors avec le chapitre 6, nous entrons dans les nerfs veillants. Vous voyez la montée, hein? Je reprends pour que vous voyez bien, parce que je crois, c'est toujours encore une fois, c'est elliptique dans Aristote, hein? Il nous croit très très intelligent de comprendre tout, immédiatement, intuitivement. Ouais. Nous sommes partis de la puissance. Nous avons vu que c'était par le point de vue de la puissance qu'il fallait commencer. Nous avons vu le point de vue de la puissance. Puis nous avons vu les modalités de la puissance. Puis quand nous avons regardé la puissance, nous l'avons regardée comme une qualité. La puissance serait quelque chose de premier. Pourquoi pas? La puissance est antérieure au mouvement. Donc, du côté du mouvement, la puissance a une antériorité. La puissance est première. C'est pas si comme à ce que ça, dépasser la puissance. La puissance est une qualité. Une qualité, c'est quelque chose quand même de très fondamental. Beaucoup de philosophies ne dépassent pas la qualité et restent au niveau de la qualité et n'arrivent pas à pénétrer au-delà de la qualité. Dans l'ordre des qualités, la puissance est première. Oui. Si je reste dans l'ordre des qualités, la puissance est première. La puissance de vouloir, la puissance de volonté, c'est quelque chose de premier, c'est quelque chose de très fondamental. Et c'est premier relativement au mouvement. Donc le mouvement est une conséquence, c'est un effet, philosophiquement. Donc au plan philosophique, je vois la priorité de la puissance sur le mouvement. Voyant la priorité de la puissance sur le mouvement, je vois que la puissance a donc quelque chose de fondamental. Est-ce que ce fondamental est le fondamental au niveau de l'être ou pas au niveau de l'être? Bon, je suis parti. Dans l'ordre du venir, la qualité est avant le devenir. La qualité émerge le devenir. Si je reste dans l'ordre uniquement du mouvement, la qualité sera première. Puisque la puissance est une qualité, elle est avant le devenir. Je vois toute la diversité de ces puissances et je vois toujours qu'elles sont premières relativement au mouvement. Je passe ensuite au possible. Je vois que le possible, comme tel, est conditionné par l'acte. Il est conditionné par ce qui le suit. C'est juste l'inverse. Vous voyez? C'est juste l'inverse comme ordre. Cette chose très curieuse. La puissance est antérieure au mouvement. Quand je vois le possible et ce qui suit le possible, ce qui suit le possible, c'est que le possible est actué. Je vois que le possible, lui, est relatif à ce qui est actué. Il est relatif à l'acte. Donc il est conditionné par l'acte. Il est en dépendance. Le mouvement est inverse. Donc la puissance regarde l'effet et l'effet est dépendant de la puissance. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit du possible, je vois que le rapport est différent. Le possible est quelque chose de second, il n'est pas quelque chose de premier. Il est toujours conditionné, il est toujours relatif. Parce que le possible ne peut se comprendre qu'en fonction de l'acte, qu'en fonction de ce qu'il a dû. Il est réalisé. Il est dépendant de la réalisation. Donc je vois à partir du possible quelque chose de tout à fait nouveau, qu'il y a nécessairement quelque chose d'antérieur au possible. Dans cette lumière, je reviens sur la puissance. Et je vois qu'en effet, certaines puissances dépendent de l'exercice. Il peut y avoir un exercice qui est antérieur aux puissances. Donc à ce moment-là, je vois bien que la puissance est plus première. L'exercice devient premier. Puisque ces puissances sont le fruit. Et je vois ensuite, quand il s'agit des puissances rationnelles, que le choix est antérieur. Le choix est premier. Qu'il y a quelque chose avant du conditionnement. Donc je relativise progressivement la dynamique. Oui, je crois que c'est ça tout cet effort d'Aristote. C'est d'essayer. Au point de départ, on voit que la dynamis a quelque chose de premier à l'égard du mouvement, puis progressivement, je vois dans certaines circonstances, la dynamis n'est pas du tout quelque chose de premier. Et à tel point que la dynamis implique un conditionnement, donc elle n'est pas première. Puisque même la dynamis, dans l'ordre de la puissance naturelle, pour pouvoir agir, dépend de la présence de l'autre. Donc elle est conditionnée. Si elle est conditionnée, elle n'est donc pas un principe. Mais elle est relative à quelque chose d'autre. Oui, on pourrait dire, si vous voulez, si vous essayez d'exprimer ce qui a été dit jusque maintenant, on pourrait dire que ce qu'Aristote a essayé de faire dire dans ses cinq premiers chapitres, c'est à la fois de la priorité de la dynamique et du caractère relatif de la dynamique. De la priorité de la dynamique dans l'ordre du mouvement, la dynamique est première et fondamentale, et cependant, dès que je regarde certains aspects de la dynamique, et que je passe surtout au possible, je découvre que la dynamique est toujours conditionnée. Elle est conditionnée dans son exercice. Et que de fait, quelquefois, elle dépend des autres. Et que quelquefois, elle dépend de quelque chose qui est antérieur à elle dans son exercice, le choix. Et donc, je suis obligé à ce moment-là de me poser la question, qu'est-ce qu'il y a d'antérieur à la dynamique? Et ce sera justement cette saisie de l'acte. Oui, je crois que tout ça a été pour préparer. On ne peut pas, dans une philosophie de l'être, regarder la dynamique comme un principe. On ne peut pas, dans une philosophie de l'être, regarder le possible comme un principe. On est obligé d'aller au-delà du possible et au-delà de la puissance pour découvrir ce que c'est que l'acte. Et que seul l'acte peut être principe. Oui. C'est ça, je crois, qui est... C'est un peu une démarche négative, vous voyez, analogue à celle que nous avions vue pour le livre de l'État. Très différent, il y a quand même quelque chose de semblable, qui est encore négatif. un procédé de relativisation de ce que représente la puissance. Alors qu'on pourrait considérer la puissance comme quelque chose qui implique, si vous voulez, une qualité, quelque chose qui est premier. Alors voilà le chapitre 10 dans lequel nous allons entrer, qui est le chapitre principal de ce livre. Hein. Sans revenir au chapitre 6. Ça, c'est la clé. Alors c'est comme toujours, on aimerait que le chapitre 6 soit un petit peu plus étendu et que l'autre chapitre soit moins étendu. N'est-ce pas? Parce que le reste c'est la préparation, le chapitre 6 c'est le nœud, et c'est toujours un peu de préparation. Alors on va aller aussi très vite, parce que pour bien montrer que l'art se saisit rapidement, tu vois, ça se saisit rapidement. Donc, après la dynamique selon le mouvement, il faut traiter de l'émerveillant. Et ce qui est très curieux, quand je compare avec, avec le point de vue de Luvian, je vois qu'Aristote dit qu'il faut chercher le tiesti de l'émerveillant. Et le poyonti, il n'a jamais dit ça pour la substance. Donc, ce qui prouve bien que le point de vue de l'art se situe au plan philosophique d'une façon très différente. Vous voyez, c'est le tiesti. Et le poyonti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand même quelque chose. Le poyonti, c'est la qualité. Qualité de cette chose-là. C'est qualitatif de l'art. Et puis le tiesti. Alors est-ce que ça ne veut pas dire justement que le propre de l'art se situe dans le prolongement de la qualité? Alors que le propre de la substance ne se situe pas du tout dans le prolongement de la qualité. Et on n'a fait pas du tout intervention. À un moment donné, on a montré que la substance ne pouvait pas être la diaphora. On a montré que la substance ne pouvait pas être la différence. Donc à un moment donné, Aristote a montré la différence entre la qualité et le point de vue de la substance. Mais ce n'est qu'un moment. Tandis qu'au contraire ici, il voit que lorsqu'il s'agit de l'art, il s'agit de chercher le tiesti. Pour la substance, on ne regardait que ça. Le tiesti, c'est la substance. Ici, il dit qu'il faut regarder le tiesti et le poignonnier. Alors, je vous mets au moins en état de même, et puis nous essaierons de comprendre. Ceci, dit-il, va éclairer ce que sera le possible. Nous avons vu que le possible restait quelque chose de relatif à l'égard de l'art. Alors il souligne tout de suite, c'est en découvrant l'émerveillant que nous comprendrons le possible. Nous ne pouvons comprendre le possible que si nous regardons l'art. Puisque le point de vue du possible est entièrement conditionné par l'art, entièrement relatif à l'art. 1048 A 31, nous allons entrer, qu'est-ce que c'est le tiesti de l'art? Le tiesti de l'art, c'est le topu parken to pragma. Je ne dis pas que c'est une définition de l'art, hein. Ce n'est pas une définition de l'art, il n'y a pas de définition de l'art, mais c'est quand même quelque chose d'assez fort qu'il faut bien souligner. L'art, c'est le topu parken. Le topu parken. C'est le fait d'exister, la chose. C'est le topu parken, to pragma. C'est uparken, n'est-ce pas? C'est le fait d'exister, de demeurer, d'être. Cela représente le point de vue de l'art. Non de cette manière qu'on appelle en puissance. Donc tout de suite, on oppose l'art à une autre manière d'être. L'art, c'est le fait d'être. Le fait d'être de telle manière. Vous voyez, c'est le topu parken, to pragma. C'est la réalité qui existe de cette manière. Et ce n'est pas la manière qu'on appelle d'être en puissance. Donc c'est tout de suite en opposition à la manière d'être en puissance qu'on va opposer. Et comme exemple, Hermès est en puissance dans le bois, la moitié dans le tout. Celui qui possède la science et ne contemple pas. Voilà trois manières d'exister en puissance. Vous voyez bien. Hermès est en puissance dans le bois. Une fois quand vous voyez un beau chêne, vous pouvez dire que vous pouvez sculpter. Donc Hermès est en puissance dans le bois. La moitié est en puissance dans le tout, vous voyez bien. Une part, vous pouvez la couper en deux, hein? Surtout si vous êtes deux, c'est en puissance. En puissance à la moitié. Et puis celui qui possède la science, il ne contente pas. Alors, c'est la simple constatation. C'est la simple constatation. C'est le tiesti de l'art, c'est ça. Maintenant, vous avez essayé de découvrir. Ceci deviendra évident. Donc, si vous montrez bien, ce n'est pas évident. Ceci deviendra évident grâce au moyen d'une induction. C'est très significatif. L'art n'est pas évident sans induction. Donc, n'est pas en regardant le fait d'exister que vous allez comprendre ce que je dis. Comprendrez-vous? Le tout marqué au pragmatisme, ceci existe, c'est le fait d'exister. Mais le fait d'exister ne vous donne pas l'existence de l'être. Et il n'y a pas d'intuition de l'être. Pour l'instant, il n'y a pas d'intuition de l'être au sens absolu. Il ne peut pas avoir une intuition de l'être. C'est trop commun. Donc ceci deviendra évident au moyen d'une induction. Donc à partir de cas particuliers. Alors il faut se rappeler ici tout ce que c'est que la théorie d'induction chez Aristote. Bon, je vous envoie au premier analytique, au second analytique. Puisque Aristote revient sur l'induction dans les premiers analytiques et second analytique. Je vous donnerai la référence exacte la fois prochaine. C'est long texte, c'est très facile à trouver. C'est à la fin du premier analytique et à la fin du second analytique. Aristote donne deux fois le point de vue de la physique des principes et des causes, en disant que c'est par le mode d'induction. Pour lui, on ne peut pas définir un principe sans une induction. C'est l'induction qui nous conduit vers la physique des principes. Donc, ceci deviendra évident au moyen d'une induction, à partir des cas particuliers. Il ne peut pas chercher, il ne faut pas chercher de tout définir. Donc c'est très intéressant, car Aristote montre qu'il n'y a pas de définition de l'acte, mais il y a une évidence par l'induction. Donc ça montre bien que la définition est autre chose comme procédé de connaissance que le point de vue de l'induction. Lorsque vous définissez, c'est la méthode de la division. Et le point de vue de l'induction, c'est autre chose, c'est pas le même procédé. Donc il ne faut pas chercher à tout définir. Mais il faut savoir saisir l'analogue dans une vue synoptique. C'est un passage très intéressant, parce qu'au point de vue méthode, par exemple, c'est rare qu'il dit des choses comme cela. Il le dit ici parce que c'est un moment très important pour lui. Remarquez que l'analogue apparaît avec le point de vue de la connaissance de l'art, de la saisie de l'art. L'analogue n'apparaissait jamais quand il s'agissait de cette sens. Et ça, vous pouvez faire l'enquête dans Aristote, vous verrez que chaque fois qu'il parle de l'acte, l'analogue apparaît, constamment. Chaque fois, mais souvent. Et chaque fois qu'il parle de l'acte, de l'analogue, de l'analogie, c'est toujours en référence avec le point de vue de l'acte puissant. Autrement dit, l'analogie pour Aristote apparaît dans la division de l'acte et de la puissance et n'apparaît pas dans la division de la puissance et de l'accident. Alors, historiquement, quand de fait on a transporté le mot analogie au mot division de la puissance et de l'accident, c'est une question très importante au point de vue de tout ce que représente le problème de l'analogie, c'est le problème de la division de l'être. Puisque le problème de l'analogie est fondé sur la division de l'être. Si l'être ne se divisait pas, s'il n'y avait pas de division de l'être, il n'y avait pas d'analogie. Bon, c'est très bien. Donc, si on veut comprendre ce que c'est que l'analogie, il faut toujours revenir à la source, c'est-à-dire à la division de l'être. Alors, nous sommes ici en présence de la division de l'être, acte et puissance. Nous allons voir. Hein. Alors, ici, Aristote parle de analogie. Il parle de analogie. Donc, nous sommes pour Aristote, dans la perspective, le fondement de l'analogie, c'est la division de l'être en attention. Nous allons voir ce que c'est. Donc, alors, lorsqu'il s'agit de l'être qui se divise en substance et accident, donc tout le livre c'est ça. Aristote n'a jamais parlé ici d'analogie. Quand vous regardez dans Saint Thomas, vous voyez que Saint Thomas met le mot analogie ici et la scolastique a continué. Bon. Pour Saint Thomas, la division de la substance et de l'acte, c'est déjà une analogie. Aristote employait le mot trans-haine, l'expression trans-haine, c'est que les accidents sont ordonnés vers quelque chose d'un, c'est le vers un, et le vers un, c'est vers la substance. Autrement dit, pour Aristote, nous ne sommes pas en face de l'analogie, mais en face d'un ordre. Tandis que l'analogia, c'est une proportion, ce n'est pas premièrement un ordre pour Aristote. Tandis qu'au contraire, pour Saint Thomas, c'est intéressant de voir le passage, pour Saint Thomas, le mot analogie existe au niveau de la division de la substance et de l'acte et au niveau de la puissance. Alors, voyez le danger, c'est de confondre, alors. C'est de confondre les deux divisions. Chez Albert le Grand, c'est déjà comme ça. Albert le Grand emploie le mot analogie pour la division de la substance et de l'acte. Alors, il faudrait voir, historiquement, à partir de quel moment on a mis le mot analogie. Oui. Parce que pour Aristote, c'est très net que le mot analogie n'est qu'au niveau de la division de la puissance. Parce que pour lui, analogie, c'est autre. Vous voyez?
C'est autre chose, et c'est pour ça que ça ne peut signifier qu'au niveau de la substance. L'ordre n'est pas assez analogique pour Aristote. Alors, c'est un ordre. Entre les accidents et la substance, il y a un ordre. Parce qu'il y a, c'est au niveau, si vous voulez, de la forme. Tandis qu'au niveau de l'acte de la puissance, nous sommes là devant une division beaucoup plus fondamentale de l'être. La division de l'acte de la puissance est beaucoup plus fondamentale dans l'ordre de l'être que la division de la substance des accidents. Ce sont deux divisions différentes, mais elle est beaucoup plus fondamentale. Alors on comprend comment, devant cette division beaucoup plus fondamentale, Aristote emploie de fait le mot analogia et le réserve. Donc, quand il s'agit de la substance et des accidents, il emploie le mot ordre. Alors on comprend très bien comment on a pu employer le mot analogie en distinguant deux types d'analogie. Je veux dire, toutes les grandes querelles sur les deux types d'analogie. L'analogie d'attribution qui implique un ordre, c'est l'analogie d'attribution. Là, ce que la scolastique est tout simplement de la histoire. L'analogie d'attribution, ce sera l'ordre. Et ici, nous sommes en face d'une proportion. C'est l'analogie de proportion. L'analogie de proportion se base sur la distinction de la classification. Oui. Tandis que l'analogie d'attribution, c'est avant tout un ordre de l'analogie d'attribution. C'est avant tout un ordre. C'est pour ça que même certains scolastiques disent que l'analogie d'attribution n'est pas une véritable analogie. Enfin, ça fait partie de toute une considération sur le point de vue de l'analogie. Donc l'analogie d'attribution n'est pas une véritable analogie. Et là, on revient au langage d'Aristote, en disant que ce n'est pas une véritable analogie. La véritable analogie, c'est la proportion. Alors, la thèse inverse aujourd'hui, c'est toujours intéressant, dans le mythe du Père Montagne, c'est juste la thèse inverse en disant que pour Saint-Thomas, il n'y a pas d'analogie d'attribution. Vous voyez, il n'y a pas d'analogie de proportion. Parce que, justement, non, mais c'est toujours la même thèse, moi, je ne suis pas tout d'accord, mais c'est le point de vue de la thèse de dire que Saint-Thomas a quitté Aristote après le commentaire du délégué d'athée. Et que Saint-Thomas est revenu à la participation catholicienne, et donc il n'a vu que le point de vue de l'ordre de la participation et de l'attribution. Parce que Montaigne reconnaît que le fait pour Aristote, l'analogie, c'est la proportion. Et c'est l'analogie de l'acte de la puissance. Mais comme si Saint-Thomas, à partir de l'héritage, avait abandonné la distinction de l'acte de la puissance. Alors que je crois que la distinction de l'acte de la puissance est présente dans toute la somme. Elle est tout le temps présente dans la pensée de Saint-Thomas. C'est au fond une distinction fondamentale. Alors ce qui est intéressant, vous voyez ici, c'est qu'Aristote souligne tout de suite que lorsqu'il s'agit de la distinction de l'acte de la puissance, nous sommes en face d'une induction qui va être un peu très particulière, puisqu'elle doit impliquer une certaine vue synoptique. L'analogue est vu, mais il faut savoir saisir l'analogue dans une vue synoptique. Donc il nous avertit qu'il y aura un type de connaissance très particulier pour saisir là. On ne saisira que de cette manière, à travers une induction et dans une vue synoptique. Et on saisit comme l'analogue. Donc, c'est comme quelque chose qui nous échappe. Alors, nous verrons ça.